Alors, en France, pour faire de l'humour, il y a les histoires belges. Il y a les histoires de Toto, vous vous souvenez de Toto? Et puis, il y a les histoires de fous. Et je vous raconte une histoire de fou qui ne fait pas rire vraiment, ou à peine sourire, mais elle me sert d'introduction. C'est l'histoire du fou qui repeint son plafond et il y a un autre fou qui rentre dans la pièce et qui lui dit « Accroche-toi au pinceau, j'enlève l'échelle. » Alors, je vous l'avais dit, ça ne fait pas rire. Mais j'ai quand même trouvé une photo avec un gars qui est accroché au plafond. Et c'est une histoire de fou qui est une bonne métaphore pour notre époque. Oui, dans ce monde de fous, de Perrier, c'est fou, il me semble qu'on nous demande ou qu'on nous propose de nous accrocher à des choses qui ne sont pas elles-mêmes fixées. Essayez une fois de vous accrocher à un pinceau quand on enlève l'échelle. Y aurait-il dans ce monde quelque chose de solide, de fixe, sur lequel on pourrait s'accrocher? Paul, dans sa lettre à Timothée, dans sa deuxième lettre à Timothée, il écrit donc à un jeune, Timothée a une trentaine d'années, il est responsable de l'église d'Éphèse, et il a besoin aussi de trouver dans sa vie un peu plus de solidité. Et Paul va répondre à cette question, à quoi s'accrocher, à quoi s'attacher. Donc je rappelle, ou je vous annonce à ceux qui nous rendent visite ce matin, que je fais une série de prédications sur cette deuxième lettre de Paul à Timothée, qu'il a écrite dans les années 60 du 1er siècle, vers 65-66. Ça sera la dernière lettre que Paul écrira. Elle fait office un petit peu de testament spirituel, parce que Paul va mourir en prison à Rome dans ces années 66, 67, peut-être 68. Dernière lettre. Timothée, qui est jeune, mais qui est un peu timide aussi, a besoin d'être encouragé dans la course de sa vie chrétienne, tout simplement. Et Paul s'y emploie, et je vous fais un résumé des épisodes précédents. Paul et Timothée, une histoire commune. Donc, Paul et Timothée, c'est un peu une relation père-fils. Il y a une relation filiale entre les deux. Il y a beaucoup d'affection. Et j'ai parlé tout à l'heure d'un testament spirituel qu'il envoie à Timothée. Et il lui demande, dans un premier temps, de ranimer la flamme, parce que la flamme de Timothée vacillait un petit peu comme la nôtre peut vaciller aussi dans notre vie chrétienne. Et il l'appelle à se rappeler justement de l'action de Dieu, de l'appel de Dieu dans sa vie et de l'exemple de Christ. Et puis après, puisque il en est question dans la vie et dans la vie chrétienne de souffrance, il l'appelle à recadrer la souffrance, à la remettre dans le cadre de la vie chrétienne pour pouvoir la déborder. On avait parlé du cadrage débordement en rugby, chose que les Français ont eu du mal à faire hier soir. Mais recadrer cette souffrance, comme un soldat de Jésus-Christ souffre, prend ta part de souffrance. Et puis, on avait parlé aussi de mettre la défense en priorité. Jouer la défense sur l'essentiel de la foi, savoir se battre pour la vérité de l'Évangile. Et la dernière fois, nous avions parlé avec Louis Armstrong, What a Wonderful World, dans ces derniers temps ou dans ces derniers jours, il y aura des temps difficiles et que le monde n'est pas si wonderful, n'est pas si merveilleux que cela. Il y a des temps difficiles et les gens le seront tout autant. Et il est important de le savoir pour ne pas douter de la pertinence de l'Évangile dans ces temps difficiles et de garder confiance parce que Dieu aura le dernier mot, le mot de la fin. On en arrive au chapitre 3 et je vous invite à la lecture de 2 Timothée 3, versets 14 en fait à 17. Pour toi, donc le monde n'est pas si wonderful, mais pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris et que depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ, car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Alors souvent, pour encourager quelqu'un qui risque d'abandonner la course de la vie, ou la course tout court, une course, on lui dit « accroche-toi, vas-y ». Et la plupart du temps, la personne est trop fatiguée pour nous répondre, mais imaginez qu'elle nous réponde, que dirait-elle? Et à mon avis, elle nous dirait « à quoi tu veux que je m'accroche ? Accroche-toi, c'est bien beau, mais à quoi veux-tu que je m'accroche ?» On oublie souvent de mettre un complément d'objet indirect. À quoi ? Et Paul met un complément d'objet indirect à sa phrase pour Timothée, « attache-toi à tout ce que tu as appris ». D'abord, par ta mère et ta grand-mère, Loïs et Eunice, l'Ancien Testament, la Torah, les prophètes, les écrits. Pas les contes de Perrault ou d'Andersen ou les dialogues de Platon, mais les saintes Écritures. Et puis aussi, on pourrait dire, le Nouveau Testament. Paul a parlé à Timothée quand il est venu le prendre à Lystre, ou la ville natale de Timothée, pour l'amener avec lui. Et Paul lui a parlé du Christ, de sa mort sur la croix, de la résurrection. Et Paul a commencé à écrire ses lettres aussi à ce moment-là. Et on a parlé à Timothée. Donc, quelque part, Timothée, les Saintes Écritures, c'est pour lui aussi le Nouveau Testament en germe, toute l'Écriture, selon l'expression du verset 16, Ancien Testament et Nouveau Testament, voilà à quoi tu dois t'accrocher, jeune homme du 1er siècle, et jeune homme, jeune fille du 21e siècle. Reste attaché à la parole. Alors cette injonction s'adresse à un responsable d'Église, et peut-être qu'on ne se sent pas très concernés, on n'est pas tous responsables de l'Église ici, mais on est quand même responsable de quelque chose. On est quand même responsable, du moins, de sa vie, de comment on la gère, de comment on la mène. On est responsable aussi des gens autour de soi, des relations que l'on a avec les gens autour de soi, de comment on les aime, de comment on les aide. Responsable, on l'est tous, alors accroche-toi. Accroche-toi à la parole si tu veux finir la course. En escalade, il y a un mot que j'aimais bien, c'est le mot « sec ». Il y a des livres d'ailleurs, « assure sec ». C'est un mot que l'on prononce quand on est un peu en difficulté sur la paroi. Quand les jambes flageolent, quand les doigts sont tétanisés, quand on est un peu en perdition sur cette satanée paroi, et qu'on se dit « dans 30 secondes, je vais tomber ». On crie « sec !» Et celui qui assure tire sur la corde, et puis on sent le baudrier un peu serré, et puis on se sent en sécurité, parce que celui qui nous assure a tiré sur la corde et nous tient bien. Et je me souviens que j'ai beaucoup prononcé ce mot « sec », parce que je n'étais pas bon en escalade, à ma grande déception. J'avais des doigts trop fins, là, ça ne tenait pas. « Sec !» Et tous les responsables que nous sommes, responsables au moins de notre vie et de nos relations, des responsables qui sont parfois un petit peu dépassés par la tournure des événements de la vie, il faut peut-être crier sec et nous raccrocher à quelque chose de solide, à la Bible, à la parole. La révélation de Dieu et la révélation de sa volonté pour nous, depuis combien de temps n'avons-nous pas crié sec? Depuis combien de temps ne nous sommes-nous pas raccrochés à la parole de Dieu? On parle pour les écoliers en difficulté de décrochage scolaire. On pourrait parler pour des responsables de vie en difficulté sur la paroi de la vie de décrochage biblique. Reste attaché à ce que tu as appris. Redécouvre le contact avec la parole. Alors, il ne s'agit pas de tomber dans une série de règles légalistes pour la lecture de la Bible, mais de s'exposer à la parole. Comme un petit peu les gens d'ici ou d'ailleurs viennent s'exposer au soleil sur les plages de la Côte d'Azur et se retournent toutes les demi-heures comme des crêpes pour s'exposer au beau soleil de la Côte d'Azur. Et comme pour donner de bonnes raisons pour s'exposer ou de rester attaché à la parole, Paul va développer quelque peu comme un bon libraire qui va faire l'éloge du dernier livre de son auteur préféré, Paul va développer trois arguments de vente. Le premier de ces arguments est très simple. Pourquoi rester accroché à la parole ? Parce qu'elle est parole de Dieu. Et 2 Timothée 3,16 est bien connu par tous les chrétiens protestants évangéliques parce qu'il est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Et en grec, c'est pas pour la ramener, mais le mot est super intéressant. En grec, « inspiré de Dieu », c'est en un mot, « théopneustos ». C'est-à-dire « théo », Dieu, et « pneustos », soufflé, air, qui a donné « pneumatique ». En français, le pneu, c'est un truc rempli d'air. Et donc, toute l'écriture est soufflée hors de Dieu, inspirée de Dieu, pas vaguement inspirée, mais franchement inspirée de Dieu, soufflée hors de Dieu. C'est Dieu qui transmet par la parole et qui se transmet lui-même. C'est Dieu qui parle. Alors, bien sûr, il y a des auteurs humains qui ont leur style particulier, qui écrivent dans un contexte qui est le leur et qui est particulier aussi, qui répondent à des questions qui sont liées à ce contexte particulier. J'aimerais dire que l'écriture, la parole de Dieu, s'incarne dans des hommes qui, avec leurs limites, avec même leur style littéraire particulier, avec leur grammaire particulière, bah, parfois même avec des fautes de grammaire, des fautes de syntaxe, mais c'est poussé par Dieu, comme dit l'apôtre Pierre un peu plus loin, que ces gens ont écrit de la part de Dieu. Nous avons là l'écriture, parole de Dieu. Et il me semble qu'il y a là un argument massu. Si nous n'avions qu'une collection d'auteurs humains, des auteurs peut-être extrêmement sages, et bien renseignés, ou même des maîtres spirituels, mais humains quand même, la Bible serait intéressante, mais pas indispensable pour ma vie. Non, elle est parole de Dieu, et ça change tout, et ça change tout dans mon rapport avec elle. En l'an 2000, nous avons eu à Bruxelles une rencontre avec John Stott. Je ne sais pas si vous connaissez John Stott. Quand vous regardez dans Wikipédia, il est dit que c'est la figure principale du protestantisme évangélique. Il était évangélique anglican, comme l'église anglicane de Cannes, de la Low Church, la basse église, c'est les évangéliques de l'église anglicane. Et il était aumônier de la reine pendant des années, de la reine Élisabeth, mondialement connu et reconnu. Et j'ai eu la joie de le rencontrer. Alors, vous voyez John Stott, il est à gauche. Et à droite, c'est qui ? Billy Graham, aussi une grande figure du protestantisme évangélique américain, Billy Graham. Et Billy Graham, c'était plutôt un évangéliste, mais John Stott, un théologien qui a beaucoup fait. Et en 2000, donc, John Stott était à Bruxelles. On avait loué la cathédrale Sainte-Gudule, ça ne s'invente pas. Il y avait 600-700 personnes, un super moment, avec Georgina Dufoy, qui était là aussi, vous vous souvenez, la ministre de la Santé, je pense, avec le sang contaminé, là, c'était compliqué pour elle, mais chrétienne, et qui a donné son témoignage, qui en a parlé d'ailleurs de cette affaire politique, et c'était très bon, belle réunion. Et puis, on a eu avec le cardinal Danels, archevêque de Bruxelles-Malines, et puis on a eu... un moment, on était, je pense, une trentaine, quarantaine, un moment avec John Stott. Et il parlait de la prédication, et la question était « Pourquoi prêcher ?» Et c'est vrai, on se la pose tous, les prédicateurs de tout poil, avec parfois un peu d'angoisse ou de déception ou de frustration. « Pourquoi je fais cela ? Pourquoi je prêche ?» Et donc, on attendait la réponse de John Stott. Et la réponse a été désarmante de simplicité. Et il a répondu, et vous devinez la réponse, pourquoi prêcher ? Parce que la Bible est la parole de Dieu. Tout simplement, c'est tout. Vous êtes mondialement connu, monsieur John Stott, vous faites des conférences dans le monde entier pour nous dire cela. Oui, mais c'est limpide et c'est amplement suffisant, vérité simple, mais qui change tout, l'écriture et parole de Dieu. Et pourquoi les prédicateurs, ils se décarcassent? Pourquoi les professeurs de la faculté de Vaux-sur-Seine ou de Jean Calvin à Aix ou l'Institut de Nogent-sur-Marne préparent des cours sur la Bible avec tellement de sérieux? Pourquoi les responsables de groupes de maison ici préparent leur intervention pendant les groupes de maison ou les clubs d'enfants ou les jeunes de ACE, les responsables du groupe ACE ou les animateurs de Lectio Divina se mettent en quatre pour présenter une étude ou une discussion autour du livre parce que c'est la parole de Dieu. Et n'est-ce pas également pour moi, pour chacun d'entre nous, un argument massu pour ne pas pour m'écraser, mais pour me pousser à la lire peut-être un peu plus, ou pour m'exposer à la Bible un peu plus souvent dans les groupes de maison, à l'église, ou que sais-je ailleurs, sur Internet aussi. C'est un rendez-vous lui-même que Dieu lui-même nous fixe. Et puis, on a une deuxième raison pour laquelle il nous faut s'exposer, pour laquelle il nous faut s'exposer à la parole de Dieu. Il est tout aussi puissant que le premier, tout simplement parce qu'elle nous sauve. Et là, on revient un peu en arrière au verset 15. Paul dit à Timothée, « Elles, les saintes Écritures, peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Et je ne vais pas insister sur la sagesse, mais sur le salut par la foi en Jésus-Christ. Et Paul parle de l'Ancien Testament, qui bien qu'il ait écrit bien avant la venue de Jésus-Christ, parle déjà de Jésus-Christ. Pointe vers lui, converge vers lui. Jésus le dira aux spécialistes de la Torah dans Jean 5, « Les Écritures parlent de moi, et pourtant vous refusez de me suivre. Et pourtant la vie que vous cherchez, dit Jésus, est en moi, et l'Écriture parle de moi, dit Jésus. » L'Écriture, la parole de Dieu, sauve dans ce sens, où elle nous parle de Jésus Sauveur, Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Il y a Pascal, le philosophe mathématicien, il y a encore le système Pascal aujourd'hui, théologien aussi, qui nous disait, sans l'Écriture qui n'a que Jésus-Christ pour objet, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est Jésus. Nous ne connaissons rien et nous ne voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu, mais aussi dans notre propre nature. La Bible nous éclaire à salut. Sans l'Écriture, parole de Dieu pour le salut des hommes, nous sommes nulle part, nous sommes toujours des brebis errantes, comme dit Ésaïe. Je suis en pleine errance et pour le dire platement, je marche à côté de mes pompes sans l'Écriture. Mais avec l'Écriture, quand Dieu me parle et dit la vérité sur moi ou sur mon besoin d'être sauvé, alors les choses s'éclairent. D'une part, il va me parler, l'Écriture me parle de mon état de délabrement intérieur. Elle me parle d'éloignement de Dieu, d'incohérence dans ma vie. Elle me parle du poids de mon péché et de mes péchés. Elle me parle de mes dépendances, de mes idoles, de mes passions, comme on en a parlé, le mirage de l'amour, les ombres, les promesses de l'ombre. Et puis, d'autre part, elle nous parle de la réponse de Dieu, de la réponse d'amour de Dieu, de grâce de Dieu, de pardon de Dieu, une réponse de Dieu qui nous ouvre un horizon nouveau d'une vie ici-bas. D'abord, la vie éternelle commence ici-bas, mais aussi qui se prolonge au-delà de la mort. Ça, c'est toute l'espérance chrétienne, une réponse aussi de Dieu qui demande un engagement également de ma part, une conversion, un virage à 180 degrés ou plus encore. Bref, tout s'éclaire par la parole. L'Écriture me sauve dans le sens où elle m'indique l'endroit où aller, où la personne à qui m'adresser pour sortir de ma vie terne et sans avenir, vers Jésus. C'est là qu'il faut aller. Et la parole nous parle de lui. Pierre, l'apôtre Pierre, dit à un moment, alors que beaucoup de disciples ont abandonné Jésus et que Jésus leur pose la question, « Et vous, vous ne voulez pas non plus m'abandonner ?» Et Pierre répond, « Vers qui irions-nous ? Tu as les paroles, toi Jésus, de la vie éternelle. » Et les paroles de la vie éternelle, elles ne se sont pas envolées, elles sont encore là, elles sont même écrites. Les paroles de la vie éternelle sont toujours là. Les paroles de Jésus, la parole de Dieu nous sauve. Elle est la vie, elle est vivante dans le sens où elle procure la vie. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de ce jeune maghrébin qui avait du mal avec sa sexualité. Un jeune homme troublé par ses passions, mais qui avait quand même une recherche spirituelle et qui, hélas, malheureusement, tombe dans une secte. Mais un jour, il entend une chanson dans sa tête qui lui dit « Prends et lis ». Et il prend ce qu'il a autour de lui, c'est une Bible. Et il la lit et il devient chrétien et il est libéré. Cet homme s'appelait Augustin. Il vivait au IVe siècle et on le connaît maintenant sous le vocable Saint Augustin et avec ses confessions. Josh, lui, était dans l'église d'Orléans où nous étions dans les années 2003-2010 et il est resté 2 ans dans l'église. Il nous a raconté qu'il venait d'une famille juive de l'Est des États-Unis, Josh, pour Joshua, Josué. Et dans son école, nous raconte-t-il, dans son high school, il y avait une fille très sympa et chrétienne. Et elle lui offre une Bible, avec le Nouveau Testament évidemment. Il la lit et il y voit l'histoire d'un homme qu'il a toujours rêvé d'être, l'histoire de Jésus. Et il en parle avec beaucoup d'émotion, cet homme. Il est quand même extraordinaire. Et il le découvre non seulement comme un modèle de vie, mais aussi comme le Messie qui devait venir. Et Josh est saved par la lecture de la Bible. Joshua a été sauvé. Et il me semble que ce deuxième argument vaut au moins le premier, cette parole sauve. Elle sauve de la mort, de la séparation d'avec Dieu, et peut-être devrions-nous plus souvent la considérer comme telle, comme une parole vivante qui donne la vie quand je suis pris par le désespoir, quand je suis pris par le péché, comme dit l'Épître aux Hébreux, qui nous environne si facilement. Revenir à la Bible pour y retrouver la vie éternelle, la vraie, celle qui dure. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, Paul ajoute un troisième argument de vente pour l'exposition complète à la parole. Celui de son utilité, car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Le mot utilisé pour utile, c'est bénéfice, bénéfique. La parole de Dieu est tout bénéfice pour celui qui s'y accroche ou qui s'y expose. Bénéfice, tirer du bénéfice. À ces mots, on ouvre un large bec et on attend la suite. Bénéfice. Et la suite, c'est toute une série de verbes qui expliquent son utilité. Alors sur cette série de verbes, on peut voir 2 groupes. Une série de verbes qui ont trait plutôt à l'intériorité et l'autre qui ferait plutôt référence au comportement. Donc, la parole de Dieu serait utile, tout bénéfice, à 2 niveaux, celui des pensées et celui du comportement, des actes. Et puis, on a remarqué, vous l'avez remarqué, que des verbes étaient plutôt négatifs et d'autres plutôt positifs. Et pour chacun, on a 2 niveaux. Pour chacun des 2 niveaux, la parole est donc négative, c'est-à-dire que Dieu, dans sa parole, nous reprend, nous juge, nous convainc de nos limites, de nos faiblesses, de nos erreurs, de nos péchés. Au niveau des pensées, mais au niveau des comportements, je crois que c'est Pierre, l'apôtre Pierre, qui dit que la parole est comme une épée à double tranchant qui vient séparer os et moelle. Moelle, je ne sais pas comment dire ça. Moelle, voilà. Et en fait, l'os et la moelle, on ne peut pas vraiment les séparer, mais donc elle vient séparer l'inséparable, elle vient trancher dans le lard, on dirait aujourd'hui. La Bible. Quand, par exemple, la parole de Dieu me demande d'aimer Dieu de toute ma force et de toute ma pensée, déjà, mon insuffisance par rapport à cela apparaît. Quand elle continue par me dire « aime ton prochain comme toi-même », ça devient de plus en plus difficile. Quand elle me parle de pardon de 77 fois, 7 fois pardonné, je me sens de plus en plus mal à l'aise, parce que j'ai du mal avec le pardon. Et quand elle ajoute l'humilité, je me sens défaillir. Et quand je poursuis ma lecture et que je lis « si quelqu'un te vole ton portable, donne-lui aussi celui que tu as en réserve ». Alors là, les limites de ma bonté légendaire apparaissent cruellement. La parole de Dieu appuie là où ça fait mal. Mais en même temps que mes limites, apparaît aussi dans la Bible, dans la parole de Dieu, un espoir fantastique. L'espoir d'être de plus en plus à l'image de celui qui nous a sauvés, d'être de plus en plus un disciple de Jésus. Car dans un même mouvement, la parole de Dieu qui nous juge et qui nous défait un petit peu, nous lance le défi de nous réformer. Elle nous relance, elle nous éduque, elle pense nous formater en commençant par les pensées qu'elle dirige vers la vérité et elle nous rend capable de mener une vie différente dans notre comportement et d'être des flambeaux dans ce monde par sa grâce. La parole de Dieu nous change et remplace les vieux schémas que nous pouvions encore avoir du genre « il n'y a que moi qui compte » ou son contraire tout aussi mensonger « je ne vaux rien, il n'y a que moi qui compte, je ne vaux rien ». Et elle remplace ce tissu de mensonges par les vérités éternelles du royaume de la grâce. C'est la parole de Dieu qui nous bouge et qui nous change. Et pour cela, il faut d'une manière ou d'une autre nous exposer à cette parole. La lire, l'écouter, la comprendre, littéralement comprendre, la prendre avec soi, la prendre pour soi. Et je redonne la parole à John Stott, qui nous dit que la question est en fait assez simple. Est-ce qu'on désire se battre contre l'erreur et remporter des victoires et grandir dans la vérité ? Est-ce qu'on veut vaincre le mal et grandir dans la sainteté ? Et la réponse, oui. Et John Stott rajoute, c'est la Bible, c'est vers la Bible qu'il faut se tourner. Et le psalmiste dit un peu la même chose. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure, c'est en se conformant. Oh là ! Voilà, il est là. C'est en se conformant à ta parole. Et tout dépend, en fait, de ce que l'on veut pour sa vie. Il y a Richard Foster aussi, un grand auteur, qui disait « Nous venons vers la Bible, non pas pour amasser des informations, mais pour être changés. » La Bible est extrêmement utile, bénéfique, dans ce sens-là, pour faire de nous des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, tout à fait adaptés et équipés. Je parle du verset 17, là, maintenant. Pour la vie. Et personnellement, j'aime beaucoup le mot « adapté », que l'on peut traduire par « capable de répondre à la demande ». Et l'enjeu se situe à ce niveau-là. Veut-on, veux-tu être capable de répondre à la demande ? Et Dieu sait, et ce n'est pas juste l'expression, Dieu sait que la demande est importante dans la vie. Pour un responsable comme Timothée, la vie d'église à Éphèse et ailleurs demande beaucoup. Est-ce que tu es adapté, Timothée ? Est-ce que je suis adapté ? Accroche-toi à la parole. Pour un homme ou une femme du XXIe siècle, baignant dans la post-modernité, engagé dans le monde du travail ou dans ses activités journalières, un père, un mari, une mère, une épouse, une femme seule, un homme seul, engagé dans ce monde difficile, la demande est importante et il faut faire face. Sommes-nous, êtes-vous adaptés ? Accrochons-nous à la parole. Et pour un jeune lycéen, étudiant, en début de carrière, la demande est aussi importante, n'est-ce pas ? Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre, il y a des déceptions aussi à gérer. Est-ce que je suis adapté ? Accroche-toi à la parole de Dieu. Non pas parce qu'elle ferait partie des traditions de famille, de la famille, mais parce qu'elle est de Dieu, cette parole, parce qu'elle indique le salut, parce qu'elle est utile pour ta vie. Que le Seigneur bénisse la prédication de sa parole. Amen.